Le roi Nebuchadnezzar adressa ce message aux hommes de tout peuple, toute nation et toute langue habitant tout l'Empire. Que la paix vous soit donnée en abondance. Il m'a semblé bon de vous faire connaître les signes et les miracles que le Dieu Très-Haut a accomplis vis-à-vis de moi. Que ces signes sont grands, que ces miracles sont puissants. Son règne est un règne éternel et sa domination dure de génération en génération. Moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille chez moi, heureux dans mon palais. J'ai eu un rêve qui m'a effrayé. Les pensées qui me poursuivaient sur mon lit et les visions de mon esprit me terrifiaient. J'ai ordonné qu'on fasse venir devant moi tous les sages de Babylone afin qu'ils me fassent connaître l'explication du rêve. Alors les magiciens, les astrologues, les prêtres chaldéens et les devins sont venus. Je leur ai raconté le rêve, mais ils ont été incapables de m'en faire connaître l'explication. Le dernier à se présenter devant moi a été Daniel, appelé Belshazzar d'après le nom de mon Dieu et qui a en lui l'esprit des dieux saints. Je lui ai raconté le rêve. Belshazzar, chef des magiciens, qui a en toi, je le sais, l'esprit des dieux saints et pour qui aucun secret n'est trop difficile, donne-moi l'explication des visions que j'ai eues en rêve. Voici quelles étaient les visions de mon esprit pendant que j'étais sur mon lit. Je regardais et j'ai vu qu'il y avait au milieu de la terre un très grand arbre. Cet arbre était devenu grand et fort, sa cime touchait le ciel et on le voyait des extrémités de la terre. Son feuillage était beau et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes sauvages s'abritaient sous son ombre, les oiseaux faisaient leur nid dans ses branches et toutes les créatures tiraient leur nourriture de lui. Dans les visions qui se présentaient à mon esprit pendant que j'étais sur mon lit, voici ce que j'ai vu. Un veilleur, un saint, est descendu du ciel. Il a crié avec force en disant « Abattez l'arbre et coupez ses branches, secouez son feuillage et dispersez ses fruits, que les bêtes s'enfuient loin de son abri et les oiseaux loin de ses branches, mais laissez en terre le tronc avec ses racines. Attachez-le avec des chaînes en fer et en bronze au milieu de l'herbe des champs, qu'il soit trempé par la rosée du ciel et qu'il ait, comme les bêtes, l'herbe de la terre pour nourriture. » Son cœur d'homme lui sera enlevé et un cœur de bête lui sera donné. Puis 7 temps passeront sur lui. Cette parole est un décret des veilleurs. Cette décision est un ordre des saints afin que les êtres vivants reconnaissent que le Très-Haut domine sur toute royauté humaine, qu'il la donne à qui il le désire et qu'il peut y faire accéder le plus bas des hommes. Voilà le rêve que j'ai eu, moi, le roi Nebuchadnezzar. Quant à toi, Belshazzar, donne-en l'explication. Puisque tous les sages de mon royaume sont incapables de me la faire connaître. Toi, tu en es capable, car il y a en toi l'esprit des dieux saints. » Alors Daniel, appelé Belshazzar, resta un moment stupéfait, terrifié par ses pensées. Le roi reprit, « Belshazzar, que le rêve et l'explication ne soient pas source de terreur pour toi. » Belshazzar répondit, « Mon Seigneur, si seulement ce rêve était pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. » L'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime touchait le ciel et qu'on voyait de toute la terre, cet arbre dont le feuillage était beau et les fruits abondants, qui portait de la nourriture pour tous, sous lequel habitaient les bêtes sauvages et dans les branches duquel les oiseaux résidaient, c'est toi, roi. Tu es devenu grand et fort. Ta grandeur a augmenté jusqu'à toucher le ciel et ta domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Le roi a vu un veilleur, un saint, descendre du ciel et dire « Abattez l'arbre et détruisez-le, mais laissez en terre le tronc avec ses racines et attachez-le avec des chaînes en fer et en bronze au milieu de l'herbe des champs, qu'il soit trempé par la rosée du ciel et qu'il ait sa nourriture avec les bêtes sauvages jusqu'à ce que 7 temps soient passés sur lui. » Voici l'explication, roi. Voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira pour mon Seigneur le roi. On te chassera du milieu des hommes. Tu habiteras avec les bêtes sauvages et l'on te donnera comme aux bœufs de l'herbe à manger. Tu seras trempé par la rosée du ciel et 7 temps passeront sur toi, jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut domine sur toute royauté humaine et qu'il la donne à qui il le désire. L'ordre de laisser le tronc avec les racines de l'arbre signifie que la royauté te sera rendue quand tu reconnaîtras que le véritable dominateur est au ciel. C'est pourquoi, roi, veuille écouter mon conseil. Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice, à tes fautes en faisant grâce aux plus humbles, et ton bonheur pourra se prolonger. » Tout cela devint réalité pour le roi Nebuchadnezzar. 12 mois plus tard, tout en se promenant dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et s'exclama « N'est-ce pas Babylone la grande, celle que j'ai moi-même construite, pour en faire la résidence royale, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma majesté ?» Il parlait encore quand une voix venant du ciel se fit entendre. « Apprends, roi Nebuchadnezzar, que la royauté t'est retirée. On te chassera du milieu des hommes, tu habiteras avec les bêtes sauvages, on te donnera comme aux bœufs de l'herbe à manger, et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut domine sur toute royauté humaine, et qu'il la donne à qui il le désire. » Au moment même, la parole fut accomplie pour Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes, il mangea de l'herbe comme les bœufs, son corps fut trempé par la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux poussent comme les plumes des aigles et ses ongles comme les griffes des oiseaux. Au moment indiqué, moi, Nebuchadnezzar, j'ai levé les yeux vers le ciel et la raison m'est revenue. J'ai béni le Très-Haut, j'ai célébré la louange et la gloire de celui qui vit éternellement, dont la domination est éternelle et dont la royauté subsiste de génération en génération. Les habitants de la terre, tous autant qu'ils sont, n'ont pas plus de poids que le vide. Il agit comme il le désire avec les corps célestes et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui puisse lui résister et qui lui dise « Que fais-tu ?» À ce moment-là, la raison m'est revenue. La gloire de mon royaume, ma majesté et ma splendeur m'ont été rendues. Mes conseillers et mes hauts fonctionnaires m'ont réclamé, j'ai été rétabli dans mes fonctions royales et ma puissance n'a fait que grandir. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je célèbre la louange, la grandeur et la gloire du roi du ciel. Tous ses actes sont vrais, ses voies sont justes et il peut abaisser ceux qui marchent dans l'orgueil. Jusqu'ici, la parole de Dieu. On va parler de l'orgueil et de l'humilité ce matin. Ce sera le thème, les deux thèmes qui vont nous conduire dans cette prédication. Et notre but sera de grandir dans l'humilité et de faire mourir notre orgueil. Et vous vous en doutez, je vais vous dire que l'orgueil c'est mal et que l'humilité c'est bien. Mais ça vous le saviez déjà. Parce que personne ne veut être perçu comme orgueilleux. L'orgueil est associé à ces riches chefs d'entreprise qui s'estiment au-dessus des lois, ces personnes de pouvoir qui pensent qu'elles ont toujours raison. Et personne ne veut être perçu comme orgueilleux. Personne ne veut projeter une image d'arrogance et de suffisance, c'est sûr. Pas moi, pas vous. Mais en même temps, peu de gens cherchent vraiment l'humilité. En fait, on cherche à être plutôt perçu comme être humble. On aimerait avoir une apparence d'humilité. Mais peu de nous prions, « Seigneur, humilie-moi, je t'en prie. » La majorité d'entre nous, et moi le premier, nous contentons d'une apparence d'humilité. Mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est ça, finalement, la vraie humilité? Comment est-ce qu'on peut la définir? À quoi ressemble une vie humble qui rend gloire à Dieu? Et quelle pourrait être notre motivation à grandir dans cette humilité? Eh bien, c'est à ces questions que l'on va répondre ou tenter de répondre ce matin. Et je vous propose 4 points qui vont structurer notre réflexion par rapport à l'humilité et l'orgueil basée sur ce chapitre 4 de Daniel. Le premier point, c'est que l'humilité est plus désirable que vous le soupçonnez. L'humilité est plus importante et désirable que vous ne le soupçonnez. On l'a lu dans ce chapitre 4. Ce chapitre nous raconte le récit de Nebuchadnezzar, donc le roi babylonien, qui est un roi orgueilleux, pas du tout intéressé par l'humilité. Et pourtant, l'humilité est bien plus importante, l'humilité est bien plus désirable que ce que l'on soupçonne. On ne s'en rend pas compte parce qu'on n'arrive pas vraiment, je crois, à comprendre ce que c'est que l'humilité. Être humble, ce n'est pas se dévaloriser. Être humble, ce n'est pas se sentir nul. Être humble, ce n'est pas cacher ce que l'on sait bien faire. Ce n'est pas cacher ses compétences ou ses dons. En fait, l'humilité ne se définit pas par rapport à nous-mêmes, mais par rapport à Dieu. La vraie humilité, c'est premièrement une attitude face à Dieu, vis-à-vis de Dieu. Andrew Murray, un théologien sud-africain, nous dit ceci de l'humilité. L'humilité consiste simplement à reconnaître la vérité de notre position comme créature et à rendre à Dieu la place qui lui est due. L'humilité consiste simplement à reconnaître la vérité de notre position de créature et à rendre à Dieu la place qui lui est due. L'humilité se définit par rapport à Dieu. Charles Spurgeon, un prédicateur anglais, disait que l'humilité, c'est avoir une juste opinion de soi-même. C'est se voir comme Dieu nous voit. Et je crois que ces deux définitions nous aident à comprendre ce qu'est la véritable humilité. Avoir cette juste opinion de soi-même. Reconnaître que nous avons été créés par Dieu, nous sommes des créatures, et qu'il mérite la place première dans notre vie, la place de roi. L'humilité, donc, c'est reconnaître la vérité de sa position comme créature et de rendre à Dieu la place qui lui est due. Et c'est pour ça que l'humilité est plus importante et plus désirable que ce que l'on pense, parce que sans humilité, on ne peut pas connaître Dieu. Il est impossible de connaître Dieu. Vous ne pouvez pas croire en Dieu, être sauvé, croire que vous êtes réconcilié avec lui, sans reconnaître que Dieu vous a créé et qu'il est digne de votre vie entière. Finalement, la foi et l'humilité sont peut-être les deux faces d'une même pièce. L'un entraîne toujours l'autre. Si vous voulez grandir dans votre foi, eh bien, vous devez également grandir dans votre amour, dans votre humilité, pardon. Si vous voulez connaître Dieu, vous devez être humble. L'humilité est plus importante que vous ne le soupçonnez. Et c'est particulièrement important de se rappeler ça aujourd'hui parce que une des valeurs principales de notre société, c'est l'autonomie. On veut être autonome. On veut être autonome financièrement. On veut être autonome en ne dépendant de l'aide de personne autour de nous. On ne veut pas que des gens autour de nous nous disent ce qui est bien ou mal, ce qui est juste ou faux. Les gens dont on lit les histoires de succès dans les journaux, dans les médias, ces entrepreneurs, ces artistes qui sont mis en avant, c'est ceux qui ont réussi contre l'avis de tout le monde. Ils ont réussi tout seuls. On peut presque lire ça dans les titres. Ils se battaient contre le monde entier et ils ont gagné. Ils ont réussi sans l'aide de personne, par la seule force de leur volonté. Gloire à eux. Et c'est ça qui nous fait rêver. L'autonomie, l'indépendance. Et c'est pas très étonnant que l'humilité n'apparaisse pas dans la liste des 10 valeurs de l'été 2022. Parce que être humble, en fait, c'est pas très sexy. Ça a pas l'air très attirant. On ne veut pas avoir besoin de Dieu. On ne veut pas reconnaître que nous sommes dépendants de lui, qu'il est digne de toute la gloire, et pas nous. Ça ne nous fait pas rêver aujourd'hui. Pourtant, l'humilité est plus désirable que nous le soupçonnons. 1 Pierre 5,5 dit que Dieu fait grâce aux humbles. Proverbe 22, verset 4, nous dit que le fruit de l'humilité, c'est la richesse, la gloire et la vie. Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient, nous dit Jésus dans Matthieu 5. Toutes ces choses découlent d'une vie qui donne à Dieu sa juste place. Et en fait, tous les aspects de la vie chrétienne découlent de l'humilité. Dieu donne sa joie à celui ou celle qui lui demande, à la personne humble qui reconnaît sa dépendance à Dieu. Et l'humilité est plus désirable donc que vous ne le soupçonnez. Et peut-être que vous m'écoutez et vous vous dites, mais en fait, moi, je n'ai pas besoin de l'humilité pour avoir la richesse, la gloire et la vie dont le Proverbe 22 parle. Une belle carrière, de l'argent, sont bien plus efficaces pour être honoré, pour être heureux. Et pour la grâce de Dieu, que Dieu donne aux humbles, finalement, à quoi ça sert? Est-ce que ça se mange? Et peut-être vous vous posez de ces questions, mais laissez-moi vous dire que je crois que vous êtes trop facilement satisfait. Parce que vous vous contentez d'un strict minimum ici. Effectivement, l'argent, la reconnaissance professionnelle peuvent amener un certain honneur, peuvent amener une certaine joie. Mais une joie ou un honneur qui semble fade et ridicule devant la joie et l'honneur qu'il y a de connaître Dieu, de se placer devant Dieu avec humilité et de le reconnaître comme étant notre Dieu. D'autant plus que l'argent, ça se vole. La reconnaissance professionnelle, ça se perd. Et la joie ou l'honneur qu'ils produisent disparaissent aussitôt. Mais en Dieu, qui ne change pas, la joie et l'honneur qu'il nous donne sont indestructibles. La paix la plus profonde, la satisfaction la plus intense, l'amour le plus grand, toutes ces choses ne peuvent être vécues que par celui qui expérimente la grâce de Dieu à son égard dans l'humilité. Donc, l'humilité, premier point, est donc bien plus importante et désirable que vous ne le soupçonnez. Le deuxième point de cette prédication, c'est que vous êtes plus orgueilleux que vous ne le pensez. Nous sommes plus orgueilleux que nous le pensons. Et l'orgueil était le problème de ce roi Nebuchadnezzar, la raison pour laquelle il a fait ce rêve à propos du grand arbre, un arbre majestueux avec un feuillage magnifique. Tous les êtres vivants se nourrissaient de ses fruits. Et Daniel, un juif déporté à Babylone qui craint Dieu, lui annonce que cet arbre, eh bien c'est lui, c'est le roi. Il est grand et puissant. Il règne sur un royaume vaste et craint. Mais dans le rêve du roi, un ange arrive, un veilleur, un saint, c'est un ange, et lui annonce que cet arbre va être coupé et que sa souche va être attachée en terre pendant 7 ans. Et l'interprétation que nous donne le prophète Daniel, c'est que le roi sera chassé du milieu des hommes et qu'il habitera avec les bêtes sauvages. Le roi va donc perdre son trône. Il va perdre la gloire et la majesté qui lui sont associées. Mais le plus intéressant dans ce chapitre, je trouve, c'est la raison pour laquelle tout cela arrive. Et cette raison est répétée 3 fois, mot pour mot, dans le chapitre, au verset 14, 22 et 29. Regardez au verset 22. Verset 22 nous dit « Roi, tu seras trempé par la rosée du ciel et 7 temps passeront sur toi, jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut domine sur toute royauté humaine et qu'il la donne à qui il le désire. » C'est répété 3 fois dans ce chapitre parce que le problème du roi, c'est qu'il ne reconnaît pas que c'est Dieu qui lui a donné cette royauté. Il ne donne pas à Dieu la place qui lui est due, celle de roi de l'univers, celle de chef suprême qui établit les rois de toute la terre. Et on voit bien cette attitude d'orgueil et de suffisance dans les versets 26 et 27. 12 mois plus tard, tout en se promenant dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et s'exclama « N'est-ce pas Babylone la Grande, celle que j'ai construite moi-même ?» pour en faire la résidence royale, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma majesté. » Qu'est-ce qu'il est en train de faire ici, le roi Nebuchadnezzar ? Il se prend pour Dieu. Il se glorifie de l'œuvre de ses mains, plutôt que de rendre gloire à Dieu. Il ne reconnaît pas qu'il est une créature, créée pour vivre de manière dépendante à Dieu. Mais il se vante de sa prétendue autonomie. Et c'est cela l'orgueil. C'est renier sa position de créature. C'est prendre la place qui revient à Dieu. Être orgueilleux, c'est avoir une opinion de soi-même qui n'est pas conforme à la réalité. L'orgueilleux se voit comme dans un miroir déformant. Il est plus grand et plus impressionnant qu'il est en réalité. Et c'est pour ça que l'orgueil, en fait, c'est de la pure folie. L'orgueil n'a aucun fondement dans la réalité. Le roi Nebuchadnezzar, dans notre chapitre, affirme qu'il a bâti Babylone par la puissance de sa force. Mais c'est n'importe quoi. Son orgueil l'aveugle à la vérité. Ce sont des esclaves, certainement, qui ont bâti la ville. Ce sont des architectes qui ont fait les plans. Le roi a peut-être donné l'ordre de faire les plans et de construire la ville. Mais évidemment qu'il n'a pas construit la ville. En tout cas, pas par la puissance de sa force. Il est en flagrant déni de réalité ici. Et Non seulement l'orgueil, c'est de la pure folie, mais c'est de l'usurpation d'identité divine. C'est prendre la place qui ne revient qu'à Dieu. Le roi affirme qu'il a bâti Babylone pour la gloire de sa majesté. Mais seul Dieu est digne de gloire. Seul Dieu est majestueux. C'est Dieu qui accorde cette royauté à qui il lui plaît. Et donc, lui seul mérite les hurrahs et les bravos. Le roi Nebuchadnezzar veut prendre la place de Dieu. En faisant preuve d'orgueil, il vole à Dieu la gloire qui n'appartient qu'à lui. L'orgueil, c'est de la pure folie. L'orgueil, c'est voler l'identité de Dieu. Et finalement, l'orgueil est comme un cancer, parce qu'il ne peut être jamais satisfait. Il est insatiable, il lui faut toujours plus. Alors qu'il marche sur la terrasse de son palais, le roi s'extasie sur la grandeur de toute la ville. Le palais de Nebuchadnezzar n'est pas suffisant. Il doit revendiquer toute la ville de Babylone. Pourquoi ? Mais parce que l'orgueil n'est jamais, jamais, jamais satisfait. Tous les compliments, tous les encouragements, tous les prix et toutes les médailles ne satisferont pas un cœur orgueilleux. Il en veut toujours plus. Alors, Dieu exerce son jugement contre l'orgueil de Nebuchadnezzar. Au verset 30, on lit « Au moment même, la parole fut accomplie pour Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs et son corps fut trempé par la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux poussent comme les plumes des aigles et ses ongles comme les griffes des oiseaux. » On a ici un cas de lycanthropie clinique. C'est un syndrome psychiatrique rare, mais quand même avéré, reconnu, où la personne croit s'être transformée en animal et adopte un tel comportement. Et c'est le cas de Nebuchadnezzar, ici, il se prend pour une vache, il mange de l'herbe pendant 7 ans. Alors, au-delà de l'aspect, on va dire, atypique du jugement de Dieu ici, sur l'orgueil, ce qui se passe nous parle de l'ironie de l'orgueil. Parce qu'à force de vouloir se prendre pour Dieu, on devient un animal. À force de chercher à être plus qu'un être humain, à s'élever au-dessus de la terre pour se sentir comme Dieu, on devient moins qu'un être humain. Et c'est un des nombreux effets destructeurs du péché. Il nous déshumanise. Nous sommes moins nous-mêmes quand nous péchons. On n'est jamais plus soi-même quand on se révolte contre Dieu. Parce que le péché nous déshumanise. Nous renions qui nous sommes en tant qu'êtres humains en nous rebellant contre Dieu. Et à la lumière de ces éléments, on voit bien que l'orgueil est un problème de cœur et pas juste de mots ou d'attitude. L'orgueil se manifeste de différentes manières. Par exemple, avec le cas de Nebuchadnezzar, dans de l'arrogance. Et peut-être que vous êtes comme ce roi Nebuchadnezzar. Vous jouissez d'une vie paisible, tout vous sourit. Vous avez du succès dans ce que vous entreprenez, et bien sûr, vous travaillez dur pour que ça se produise. Mais que ce soit dans le cadre familial ou professionnel, vous portez du fruit, et cela vous ravit au plus haut point. Mais dans tout cela, qu'est-ce qui vous motive ? Quel sentiment remplit votre cœur alors que vous regardez votre vie ? Est-ce que vous reconnaissez votre statut de créature ? Dépendante de Dieu à chaque seconde de votre vie. La Bible nous dit dans Jacques 1,17 que tout don parfait vient de Dieu et que c'est lui qui produit en vous, Philippiens 2,13, le vouloir et le faire. Dieu est l'auteur de toutes ces bonnes choses dans votre vie. Alors il y a autant de raisons de se vanter des dons de Dieu que en fait, du nombre de cheveux que vous avez sur la tête. Dans les deux cas, c'est l'œuvre de Dieu. Et la question, c'est, est-ce que vous rendez gloire à Dieu pour toutes ces bénédictions ? Est-ce que vous recherchez à dire merci à Dieu ? Ou eh bien, est-ce que vous dites, ce que je veux, c'est que les gens reconnaissent que j'ai réussi ? Qu'est-ce qui vous remplit davantage de joie ? Est-ce d'entendre gloire à Dieu ? Ou bien, waouh, t'es super, t'as réussi ? Est-ce que vous êtes plus orgueilleux que vous ne le pensez. Mais l'orgueil n'est pas seulement manifesté par l'arrogance et la suffisance, et plus subtilement, l'auto-apitoiement. C'est également de l'orgueil. Parce que l'arrogance, c'est dire à tout le monde « Regardez-moi, regardez-moi comme je réussis !» Mais l'apitoiement, c'est dire « regardez-moi comme je souffre !» L'apitoiement, c'est la réponse de l'orgueil face à la souffrance. Alors que l'arrogance, c'est la réponse de l'orgueil face à la réussite. Et la souffrance et les échecs sont réels dans ce monde. Le Nouveau Testament annonce des dizaines de fois que ceux qui suivent Jésus vont souffrir. Mais cette souffrance doit être apportée à Dieu et pas nourrir notre orgueil. Et lorsque cette souffrance vient de notre propre péché, nous devons confesser ce péché à Dieu. Parce que chercher des coupables autour de nous, chercher à se justifier, c'est une réponse orgueilleuse. Parce qu'en faisant cela, on se prétend plus vertueux que ce que l'on est. On se prétend plus juste que ce que l'on est réellement. L'apitoiement, c'est se tourner vers soi et ses blessures et chercher à se créer un monde imaginaire dans lequel on a fait tout juste, dans lequel tout le monde a tort, dans lequel on est une victime et finalement dans lequel Dieu n'a pas sa place, sa juste place. Est-ce que vous cherchez Dieu dans les temps de souffrance alors que vous traversez des échecs? Est-ce que vous lui donnez sa juste place dans votre vie lorsque vous traversez des tempêtes? Qu'est-ce qui vous apporte le plus de réconfort? Est-ce que c'est d'entendre ce psaume que Dieu est proche de ceux qui ont le cœur brisé? Ou d'entendre quelqu'un qui vous dit « Oh mon pauvre, t'as pas mérité tout ça, t'es vraiment une victime. » Est-ce que vous êtes plus orgueilleux que vous ne le pensez? L'orgueil est grave. Que ce soit manifesté dans l'apitoiement, que ce soit manifesté dans l'arrogance, l'orgueil est une insulte à la majesté de Dieu. L'orgueil est une folie, l'orgueil est un cancer, l'orgueil mène à la destruction. Et l'orgueil doit mourir dans notre vie. L'orgueil doit mourir dans notre vie. L'orgueil est donc... nous sommes donc plus orgueilleux que nous le pensons. Et le troisième point, c'est que grandir dans l'humilité demande davantage de grâce de Dieu que nous le croyons. Grandir dans l'humilité demande davantage de grâce de Dieu que vous le croyez. J'espère que vous êtes maintenant convaincus un petit peu plus de la beauté de l'humilité, mais aussi de l'horreur, de l'orgueil. Et la question qui peut-être vous vient, c'est, et maintenant, comment changer? Comment faire mourir l'orgueil? Comment grandir dans l'humilité alors? Eh bien, première chose à faire, c'est de reconnaître cet orgueil. Reconnaître son péché, c'est toujours, toujours, toujours le premier pas vers le changement durable que Dieu produit en nous. Et d'ailleurs, c'est la condition donnée au roi Nebuchadnezzar pour que le jugement de Dieu se termine. En verset 29, on lit que voilà, Nebuchadnezzar sera jugé comme, passera sept années dans, comme un bœuf, jusqu'à ce qu'il reconnaisse que le Très-Haut domine sur toute royauté humaine. Le roi ne doit pas simplement reconnaître que Dieu est un Dieu un peu plus glorieux que lui, ou un peu plus puissant, mais le roi doit reconnaître que Dieu domine sur toute royauté humaine. Et que l'orgueil dont il fait preuve est véritablement grave et une insulte à Dieu. Cela doit venir d'une véritable conviction que Dieu est tout et que nous ne sommes rien. Alors une fois avoir reconnu cet orgueil dans notre vie, comment faire? Comment continuer? Eh bien, si vous vous êtes posé cette question, comment grandir dans l'humilité, vous êtes sûrement arrivé à la même conclusion que moi, c'est difficile. C'est difficile de grandir dans l'humilité, parce qu'on ne peut pas la simuler. L'humilité doit être authentique, sinon elle n'est rien du tout. Imiter l'humilité, en fait, c'est la chose la plus orgueilleuse qu'on peut faire. Et donc, dire à quelqu'un « sois humble », eh ben, c'est un petit peu l'équivalent spirituel de lancer quelqu'un qui ne sait pas nager dans une piscine et de lui dire « Nage. Il ne va pas y arriver. Peu importe à quel point il s'agite dans tous les sens. Et notez ici que minimiser ses compétences, cacher sa souffrance, ne nous aide d'aucun secours, parce que ce n'est pas la vraie humilité. Ce n'est pas rendre à Dieu la place qui lui est due. En fait, l'orgueil est tellement implanté dans notre cœur. Il fait tellement partie des meubles, mais il a aussi envahi les murs, la fondation, la charpente, que vouloir s'en débarrasser reviendrait à vouloir à tout détruire et à reconstruire quelque chose de nouveau. Une simple couche de peinture, d'humilité, ne va pas suffire. J'aimerais vous donner un exemple personnel de cela. Il y a quelques années, j'étais dans un groupe de louanges, je faisais du piano dans un groupe de louanges, et on allait régulièrement faire des temps, animer des temps de louanges dans des conférences en Suisse. Et on était 3 personnes à diriger les temps de louanges dans ce groupe. Il y avait un autre garçon, une fille, et puis moi. Et puis on avait été invités à animer un temps de louanges, enfin, la louange dans une conférence, et puis on s'était séparés l'organisation des temps de louanges. Et puis, tout allait pour le mieux. Et à ce moment-là, une bataille féroce faisait rage dans mon cœur, entre chercher à être mis en avant et servir Dieu. Et ça se manifestait par une compétition un petit peu inofficielle entre l'autre garçon responsable à louange et moi. Parce que je voulais faire mieux que lui. Et les critères que j'avais décidés tout seul de cette compétition, c'était le choix des chants qu'on allait prendre, l'attitude, ce qu'on allait dire pour introduire les chants. Je voulais que le monde entier voie que j'étais plus mature et évidemment plus humble que lui. Et j'étais bien au courant de cette lutte dans mon cœur, et je priais pour ça. Et voilà ce qui s'est passé. Donc j'ai animé le temps de louange du samedi soir, et je crois que c'était vraiment bien. On a bien joué musicalement, les gens ont chanté de tout leur cœur, les paroles des chants étaient bibliques, j'ai introduit quelques chants, mais pas tous, avec des versets ou une petite phrase pour encourager les gens à se tourner vers Dieu et à le glorifier. Et alors que le temps de louange est terminé, on est descendu de la scène, et tout d'un coup, mon cœur s'est rempli d'orgueil et de fierté. J'avais assuré. En fait, j'étais trop fier. Et c'était pas possible de faire mieux, en fait. Mais juste après, je me suis dit, non, Benoît, ressaisis-toi, lutte contre l'orgueil. Tu sais que Dieu seul est digne de gloire. Demande pardon pour ton orgueil et prie pour l'humilité. Et la troisième pensée qui m'a traversé l'esprit, c'était la suivante. Je suis sûr que l'autre leader de louange, il pense même pas à prier pour l'orgueil après qu'il ait animé un temps de louange. Ah, qu'est-ce que je suis humble quand même. Et j'ai appris 2 choses ce soir-là. La première, c'est que j'étais bien plus, mais alors bien plus orgueilleux que ce que je pensais. Et la deuxième, c'est que j'avais vraiment, mais alors vraiment plus besoin de la grâce de Dieu pour me transformer. J'avais absolument rien en moi-même pour changer mon cœur. Rien du tout. C'était impossible que j'y arrive. Et je crois que, en fait, on doit arriver à ce niveau de désespoir saint pour chercher Dieu et pour crier à lui. On doit arriver au bout de soi-même, avoir épuisé toutes nos ressources pour reconnaître qu'on ne peut rien changer par nous-mêmes et qu'on a besoin de la grâce de Dieu infiniment plus que ce que l'on croit. Et pour le roi Nebuchadnezzar, ça a pris 7 ans. 7 ans à se dire tous les jours, non, je ne reconnaîtrai pas que Dieu est tout-puissant. Non, je ne reconnaîtrai pas que Dieu est tout-puissant. Non, je ne reconnaîtrai pas que Dieu est tout-puissant. Jusqu'à ce que, après 7 longues années humiliantes à manger de l'herbe, il cède à la gloire, à la grâce de Dieu. Et il a été rétabli. Grandir dans l'humilité demande davantage de grâce que on ne pense. Mais la bonne nouvelle, c'est le dernier point, c'est que la grâce de Dieu est plus grande et plus puissante que ce qu'on peut imaginer. La grâce de Dieu est plus grande, la grâce de Dieu est plus puissante que ce que l'on peut imaginer. La grâce de Dieu, c'est sa faveur imméritée à notre égard. Il ne nous donne pas ce que nous méritons. Il ne nous donne pas le jugement terrible que nous méritons. La grâce de Dieu nous restaure, elle nous libère, elle nous transforme et elle est plus grande que ce que l'on imagine. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que la grâce de Dieu, ce n'est pas une caresse sur l'épaule. Et Dieu nous dit, ça va aller. La grâce de Dieu, elle est plus grande que ça. La grâce de Dieu, ce n'est pas une baguette magique qui transforme les circonstances de notre vie et qui enlève la souffrance et le mal. La grâce de Dieu, elle est plus puissante que ça encore. Un auteur chrétien, Paul Tripp, nous dit ceci, « La grâce de Dieu, c'est Dieu qui nous emmène là où nous ne voulons pas aller pour produire en nous ce que nous ne pouvons pas atteindre par nous-mêmes. » La grâce de Dieu, c'est Dieu qui nous emmène là où nous ne pouvons pas aller pour produire en nous ce que nous ne pouvons pas atteindre par nous-mêmes. Et l'humilité est quelque chose que nous ne pouvons pas atteindre par nous-mêmes. Et Dieu doit donc nous emmener là où nous ne voulons pas aller pour produire en nous ce que nous ne pouvons pas produire. Et c'est ce qui s'est passé avec Nebuchadnezzar. La grâce de Dieu ressemble à cette longue année à manger de l'herbe, comme une vache. Et Dieu a emmené ce roi Nebuchadnezzar dans l'humiliation la plus profonde, là où il ne voulait pas aller, pour produire en lui l'humilité qu'il était incapable de produire par lui-même. C'est une grâce plus grande que ce que l'on imagine. C'est pour ça que Dieu nous humilie lorsque nous devenons trop orgueilleux. Il nous aime trop pour nous laisser dans l'orgueil. Et cette humiliation ne prendra sûrement pas la forme d'une lycanthropie clinique comme Nebuchadnezzar. Mais la dynamique est la même. Lorsqu'on touche le fond, lorsqu'on est arrivé à la fin de nos ressources, à la fin de nos bonnes idées, et qu'on reconnaît humblement à Dieu que l'on est à bout, eh bien, Dieu est en train d'agir à ce moment précis. Dans sa grâce, il produit en nous ce que nous ne pouvions pas atteindre par nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'une des prières les plus dangereuses à faire, c'est de prier « Dieu, fais-moi grandir dans l'humilité ». C'est la plus dangereuse, parce qu'elle peut potentiellement le plus manifester la grâce de Dieu là où on ne veut pas aller, pour que Dieu produise en nous ce que l'on ne peut pas produire. Cette grâce est plus grande que l'on imagine, mais elle est également plus puissante, parce qu'elle peut terrasser le cœur le plus endurci. Il n'y a aucune arrogance, aucun apitoiement, aucun orgueil qui ne puisse être vaincu par la grâce de Dieu. Vous pouvez être transformé et passer de l'orgueil à l'humilité. La grâce de Dieu est puissante parce qu'elle nous transforme et elle nous libère de l'esclavage du péché. C'est la promesse de l'évangile de Jésus-Christ. La bonne nouvelle que le changement durable et profond est possible pour celles et ceux qui mettent leur foi en Jésus et qui reconnaissent qu'il est le sauveur dont ils ont besoin. Et c'est ce qu'a fait le roi Nebuchadnezzar. À partir du verset 31, on lit « Au moment indiqué, moi, Nebuchadnezzar, j'ai levé les yeux vers le ciel, et la raison m'est revenue. J'ai béni le Très-Haut, j'ai célébré la louange et la gloire de celui qui vit éternellement, dont la domination est éternelle et dont la royauté subsiste de génération en génération. » Un peu plus loin, « Il n'y a personne qui puisse lui résister et qui lui dise « Que fais-tu ?»« Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je célèbre la louange, la grandeur et la gloire du Dieu du ciel. » Tous ses actes sont vrais, ses voies sont justes, et il peut abaisser ceux qui marchent dans l'orgueil. Si Nebuchadnezzar a dû passer 7 longues années à manger de l'herbe avant de finalement reconnaître son orgueil, c'est qu'il était très orgueilleux. Mais la grâce de Dieu a été suffisamment puissante pour changer son cœur. Et le roi reconnaît même que Dieu est le Très-Haut, le roi des cieux, et qu'il est juste de l'avoir humilié. L'humilité est plus désirable que l'on ne soupçonne. Et la grâce de Dieu est vraiment plus grande et plus puissante que ce que l'on imagine. Dieu est à l'œuvre dans la vie des membres de son peuple pour manifester sa grâce et pour nous faire grandir dans l'humilité. Et Dieu nous appelle à lutter contre l'orgueil, pas en essayant d'être humble, mais en reconnaissant que nous ne le sommes pas. Il n'y a rien en nous qui puisse développer de l'humilité. L'humilité se définit par rapport à Dieu et elle grandit dans nos vies par la grâce de Dieu. Et elle a pour but la gloire de Dieu. Alors, comment grandir dans l'humilité? Eh bien, pas en se concentrant sur nos péchés, pas en méditant nos échecs, pas en cachant nos compétences, mais en reconnaissant notre besoin de la grâce de Dieu. Cette grâce nous rend humbles parce qu'on ne pourra jamais, jamais, jamais la mériter. Et on a ainsi un espèce de cercle vertueux. La grâce de Dieu nous rend humbles et cette humilité nous fait reconnaître notre besoin de la grâce de Dieu qui nous rend humbles. Et cela nous fait reconnaître notre besoin de cette grâce et ainsi de suite. Alors comment rentrer dans ce cercle vertueux ? Eh bien en reconnaissant notre besoin de la grâce. C'est ce qu'a fait le roi Nebuchadnezzar après 7 longues années à manger de l'herbe. Et que Dieu nous garde de devoir nous humilier à ce point avant que nous ne reconnaissions notre orgueil et que nous cherchions sa grâce. Je vous invite à prier pour terminer. Dieu Tout-Puissant, tu es le seul être digne de toute gloire, de toute adoration, de toute louange de l'univers. Toi seul es majestueux. Et Saint-Esprit, transforme nos cœurs pour que nous nous rendions compte de notre besoin de ta grâce pour grandir dans ce domaine de l'orgueil et de l'humilité. Merci parce que tu fais grâce aux humbles. Je prie que nous puissions être de telles personnes qui reconnaissent notre besoin de Dieu et qui nous voyons comme Dieu nous voit. Dans le nom de Jésus. Amen.